On va revenir maintenant à la guerre au Moyen-Orient, avec des échanges de frappes qui ont lieu entre les armées américaines et iraniennes. Quant à Donald Trump, il le dit, c'est ce soir qu'il va frapper fort, très fort, l'Iran.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura davantage de bombardements cette nuit. Ils seront plus importants et plus puissants. Nous avons abattu tout leur système anti-aérien. Globalement, ils n'ont plus aucune défense.
Et on va retrouver Antoine Lard en direct de Washington pour BFM TV. Antoine, parce que ça y est, la guerre est repartie et d'après le président Trump, ce sera de manière intense.
Oui, en fait, ça fait déjà deux soirs de suite que les États-Unis mènent des frappes contre l'Iran. Ce soir, il s'annonce donc, Trump a annoncé une troisième série de frappes. Jusqu'ici, ce sont des installations militaires qui ont été visées par les États-Unis. Mais Donald Trump, aujourd'hui, laisse entendre eh bien, que bientôt, les Américains pourraient aller plus loin et s'en prendre à des infrastructures civiles. Trump dit notamment que les États-Unis pourraient saisir l'île de Karg. Vous savez, cette île ultra stratégique par laquelle transite 90% du pétrole iranien. Alors ça fait longtemps qu'on parle de cette île. Jusqu'ici, Donald Trump a toujours écarté la possibilité de lancer un assaut contre ce site ultra stratégique parce que ça voudrait dire de déployer des troupes au sol, c'est-à-dire donc une opération risquée avec la possibilité de perdre de nombreux soldats dans cette opération. Et donc jusqu'ici, Donald Trump n'avait pas voulu passer à l'action. Est-ce que cette fois, il va y aller ? Ça n'est pas sûr. Tout à l'heure sur Fox News, il s'est montré un peu plus prudent. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que Donald Trump est à bout de patience. Hier, il a accusé les Iraniens de faire traîner volontairement les négociations, de le prendre pour un idiot. Et pour Trump, eh bien, ça suffit désormais. Et c'est pour cette raison, eh bien, qu'il a relancé ses frappes. Alors, les officiels américains assurent que ça n'est pas une reprise des hostilités, ça n'est pas un retour de la guerre à grande échelle. Le CENTCOM, le commandement militaire, parle de frappes ciblées, de frappes de défense. Et l'objectif, en tout cas, aux yeux de Donald Trump, c'est, par cette campagne, ces nouvelles campagnes de bombardement, de mettre une pression sur le régime iranien pour le forcer à conclure un accord aux conditions des États-Unis. D'ailleurs, en coulisses, les discussions se poursuivent entre Iraniens et Américains.
Merci Antoine Lard en direct des États-Unis pour BFM TV. Et l'Iran, Ulysse Gosset, bonsoir, qui menace bien évidemment de faire connaître l'enfer aux Américains, qui a envoyé des missiles sur la Jordanie qui ont été interceptés. Finalement, on a l'impression de revivre quelque chose que l'on connaît déjà, un film malheureusement pas de très bonne qualité, quoi.
Oui, on a l'impression effectivement que la patience de Donald Trump s'épuise et qu'il a envie de frapper fort pour envoyer un nouveau message, un nouveau coup de pression à l'Iran à quelques jours de son anniversaire, à quelques jours de son départ pour l'Europe, pour le G7 qui a lieu en France, à Évian, où il sera lundi soir prochain. Donc il y a quelques jours, il y a vraiment une période très critique de quelques jours qui peut encore permettre à Trump de bombarder l'Iran. Avec, je pense, un calibrage assez précis. C'est-à-dire qu'il veut à la fois vraiment infliger des dégâts à l'Iran pour bien faire comprendre aux Iraniens qu'il faut accepter un accord.
Donc des sites pétroliers notamment.
Alors attendez, d'abord la stratégie, c'est taper fort, mais plus qu'une simple riposte à une frappe iranienne, et pas trop fort pour que ça ne soit pas non plus une reprise de la guerre. Imaginez quand même, en pleine Coupe du Monde de football qui démarre aujourd'hui, en plein sommet du G7, en plein anniversaire avec un grand spectacle, un grand show à la Maison Blanche, une opération de guerre massive américaine et israélienne en Iran, ça paraît peu probable. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est effectivement de bien calibrer et alors
faire mal, mais pas trop quand même.
Exactement. Et là, on vient dans le détail. Que dit Trump publiquement? Et c'était assez étonnant d'entendre le président des États-Unis, le commandant en chef, dire « je veux prendre l'île de Karg, je veux prendre tous les sites pétroliers et le contrôle du trafic pétrolier et gazier de l'Iran, et puis frapper les ponts et les infrastructures ». Alors hier, il a dit « je veux qu'on frappe les ponts et les infrastructures », donc c'est-à-dire toucher les Iraniens, les civils, pas seulement les militaires. Et aujourd'hui, il dit « je préférerais ne pas le faire parce que ça a des conséquences pour les civils ». Donc on a toujours, si vous voulez, cette situation un peu ambiguë de la part de Trump, mais on est clairement dans une nouvelle montée de la tension. Et côté Téhéran, ce qui est étonnant, c'est que ce matin encore, jusqu'à l'aube, il y avait des négociateurs qataris qui se trouvaient à Téhéran pour négocier et partir donc vers le Qatar ou peut-être vers les États-Unis, on verra, pour dire « voilà le plan » qui est possible si on veut absolument aboutir à un accord.
Téhéran qui juge désormais pratiquement dénué de sens le cessez-le-feu, théoriquement toujours en vigueur. Est-ce que le régime iranien a de la capacité militaire d'empêcher ces frappes annoncées du côté des États-Unis?
Alors, les empêcher, non. Il manque notamment de défense solaire conséquente pour pouvoir intercepter. Mais par contre, il a des capacités pour répondre, pour répliquer.
Par exemple, l'île de Karg. Si Trump dit qu'il faut détruire l'île de Karg, les Iraniens ne peuvent pas l'empêcher?
En fait, il y a...
Il n'a pas dit détruire, il a dit il faut prendre l'île. C'est pas la même chose. Parce que l'île de Karg, c'est le poumon pétrolier. Imaginez que l'île de Karg soit complètement détruite. C'est une crise pétrolière majeure qui est déclenchée.
Donc, prendre au sol avec des troupes?
Oui, mais ça veut dire une opération aéroportée importante et avec forcément des pertes. Voilà, parce que les Iraniens, ils vont quand même pas se.
Ceux d'Américains vont se faire tirer dessus.
Voilà, donc la prise de risque est extrêmement élevé. Donc, effectivement, il n'y a pas de très bonne option sur Karg, parce que la détruire, comme le dit Ulysse, c'est l'impact.
Allez, reprenons les mots de Trump, nous prendrons l'île de Karg.
Et penser que les Iraniens vont dire, venez, faites comme chez vous.
Ce qui se dit sur l'île de Karg, c'est que les Iraniens ont profité du cessez-le-feu pour reconstituer leur défense, renforcer les troupes sur place. Et je rappelle une chose quand même, c'est importante, c'est que l'Iran continue quand même à exporter un peu de pétrole. Mm-hmm. Donc tout n'est pas complètement bloqué.
Et le détroit d'Hormuz dans tout ça?
Les Américains ont dit,
les Iraniens ont dit, allez, on le reprend, on referme, on verrouille.
Oui, mais l'information qui est la plus stupéfiante des derniers jours, c'est que Donald Trump lui-même a annoncé qu'il avait fait passer 100 millions de barils, pas clandestinement, mais secrètement, malgré le blocus iranien.
Il nous a annoncé 25 fois que le détroit d'Hormuz était réouvert, comme il a menacé 38 fois l'Iran d'être détruit, et aussi une trentaine de fois le fait qu'il est parvenu à un accord. Donc, si vous voulez, le discours de Donald Trump, il est assez variable, en fait, en fonction de la conjoncture.
Donc, il faut être prudent sur ce qu'il raconte. Oui. Mais on voit quand même une chose, c'est que le régime iranien joue avec les nerfs du président américain, et pour l'instant, ce régime iranien est toujours là. Tarde à répondre aux exigences américaines. Les Iraniens prennent leur temps.
Oui, mais ça fait 47 ans.
Et ça fait 47 ans, et donc ça continue.
Qu'ils ont un savoir-faire pour faire traîner en longueur les négociations,
j'ai envie de dire, c'est quand même les rois de l'embrouille.
Ça fait 25 ans qu'ils ont un programme clandestin nucléaire, qu'ils continuent quand même, en fait, d'enrichir l'uranium. Non, il y a un certain génie iranien à faire durer les choses, à laisser finalement faire le temps, faire pourrir une situation pour parvenir finalement à un avantage à la suite.
Mais est-ce qu'on peut imaginer que ça marche cette fois pour Donald Trump? C'est-à-dire qu'en frappant fort, de manière précise, peut-être des intérêts stratégiques et vitaux, que ça puisse cette fois-ci faire plier le régime iranien et les faire signer?
Non, je ne pense pas, dans le sens où le peuple iranien sera un peu à l'image du peuple pakistanais. S'il faut qu'il soit contraint à manger de l'herbe pour avoir l'arme nucléaire, ils le feront quand même. Dans le sens où c'est un régime, on l'a dit en fait, de 47 ans de résilience économique. Donc même si vous bombardez au risque d'un choc pétrolier l'île de Karg, qui est 90% finalement du pétrole iranien est exporté, il n'empêche que le programme nucléaire sera quand même maintenu, et le régime des Mollahs également.
Alors, il faut préciser une chose, c'est que il est annoncé, là, tout à l'heure, une réunion à la Maison-Blanche, dans la Security Room, pour faire justement le point avec les services de renseignement, le patron de la CIA, le vice-président. Et donc, c'est une réunion qui va permettre à Trump d'évaluer les options et de voir quels sont les risques. Parce que, comme le disait le général Pellistrandi, prendre l'île de Karg, ça veut dire des hommes au sol, des troupes au sol, ce que Trump a toujours refusé de faire compte tenu des risques.
Oui, mais Ulysse, il y a le calendrier. Aujourd'hui, c'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde aux États-Unis. Donc, au même moment, la Coupe du Monde va démarrer et pourrait y avoir une opération militaire d'ampleur.
C'est bien ça le problème.
Et Donald Trump serait...
J'ai posé la question à quelqu'un qui est plutôt proche de Trump. Mais dit, mais Trump, ça ne l'ennuie pas, ça le gêne pas. C'est au contraire une façon de dire, le monde continue de tourner, la Coupe du Monde démarre, et moi, je veux faire plier l'Iran. Alors, est-ce que dans ses propos depuis 48 heures, il s'agit encore une fois d'un coup de pression du président
pour essayer
de faire plier l'Iran? Où est-ce que véritablement il va frapper ce soir à nouveau? Il faut dire que hier, il avait annoncé les frappes et elles ont eu lieu. Aujourd'hui, il dit je veux prendre l'île de Karg, on verra ce qui se passe cette nuit. Mais c'est vrai que le choc des images, c'est-à-dire une Amérique en guerre qui frappe, qui mène une guerre au Proche-Orient, et une Amérique qui est en train de se préparer à la Coupe du Monde. Alors c'est vrai que les premiers matchs ont lieu plutôt au Mexique, et que c'est simplement samedi que les compétitions arriveront donc aux États-Unis même, sur la côte ouest et sur la côte est. Mais néanmoins, si vous voulez, on a un peu le vertige en se disant, est-ce que le commandant en chef va aller appuyer sur le bouton au moment où on essaie de célébrer le football?
L'équipe d'Iran est qualifiée, Et elle est sur place aux États-Unis. Oui. Et d'ailleurs, elle n'est pas très bien traitée. Hein.
Alors, elle n'est pas très bien traitée. Alors, son camp de base est donc à Tijuana, c'est-à-dire juste de l'autre côté de la frontière du Texas. Bon, les joueurs ont eu leur visa, mais une partie de l'encadrement n'a pas obtenu le visa. La seule chose, c'est que c'est sa septième qualification pour la Coupe du Monde. Donc, c'est une équipe qui a du mordant et qui peut jouer un rôle, en tout cas, pour le premier tour. Donc, on va voir comment ça va se passer. Sachant que je crois qu'il y a un match de l'équipe d'Iran à Los Angeles. Mm-hmm.
Où il y a la plus forte communauté iranienne.
Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer derrière? Une communauté iranienne, enfin, très anti-régime.
Voilà, oui.
Mais voilà, qu'est-ce qui va se passer? Donc, une incertitude supplémentaire qui n'est pas seulement que sportive.
Et puis, il ne faut pas oublier l'autre front, qui est le front entre Israël et le Liban. Alors là, pour le moment, les frappes ont cessé. Mais on craint, si jamais Trump reprend lui-même le conflit contre l'Iran, que ça reparte aussi entre Israël et le Liban, que le Liban se trouve frappé, la capitale Beyrouth. Et alors, Beyrouth, où l'on tente de vivre normalement, Dominique Marie, vous êtes sur place pour BFM TV, seulement on se dit, si ça repart, et c'est sérieux, la population demande l'annulation du baccalauréat pour les écoliers, parce qu'ils passent leur bac en ce moment.
Oui, c'est vrai que la population libanaise, en fait, pour tout vous dire, est tiraillée. Il y a d'abord la population du sud du pays qui a fui, évidemment, le sud, les combats, les tirs de l'armée israélienne. Et avec ses familles, il y a forcément des lycéens très nombreux, plusieurs milliers de lycéens qui devaient passer le bac dans les jours prochains. Et eux, évidemment, c'est très compliqué de réviser, vous l'imaginez bien, ou d'avoir révisé les dernières semaines. On a rencontré l'un d'eux, un jeune étudiant de 17 ans qui doit passer le bac, Jamal, qui nous expliquait avoir récupéré ses cours il y a seulement 2-3 jours dans sa maison à Tir, dans le sud du pays, qui avait été complètement détruite par une frappe israélienne. Comment réviser dans ces conditions? Et puis, à contrario, on a fait la connaissance d'une jeune élève particulièrement brillante. Elle est la première de sa classe. Et elle, dans son lycée, elle a pu réviser, avoir accès à des professeurs pour continuer à bachoter, travailler encore et encore, et qui évidemment souhaite passer le baccalauréat, pas simplement par ego, mais parce que le bac, comme pour tout beaucoup de Libanais, de jeunes Libanais, c'est un sésame pour avoir une bourse pour payer la suite des études. Donc vous imaginez bien à quel point c'est important pour eux. Dans tout ça, évidemment, le gouvernement est particulièrement tiraillé. La ministre de l'Éducation, pour l'instant, n'a pas tranché. Elle essaie de trouver un compromis, mais il ne plaira pas forcément à tout le monde. Mais ce qui me frappe surtout, c'est la résignation de tous les jeunes qu'on a rencontrés, à la fois ceux qui veulent absolument passer le bac, d'autres qui veulent qu'il soit tout simplement reporté parce qu'ils n'ont pas pu réviser. L'un d'eux m'expliquait, mais vous savez, au fond, au Liban, tout n'est jamais facile. La situation est systématiquement précaire et il faut toujours s'adapter. L'un d'eux me disait d'ailleurs, au fond, il faudrait peut-être mieux annuler complètement le baccalauréat plutôt que, voilà, sur le chemin, subir une frappe israélienne. Et ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, hein, ce que je vous raconte, parce qu'il y a quelques jours en arrière, il y a une famille chrétienne, si je vous précise ça, c'est pour vous dire que ce ne sont pas des membres du Hezbollah, une famille chrétienne qui emmenait à l'université une étudiante passer un examen, et bien sa voiture a été touchée, ils sont morts tous les trois.
Dominique Marie avec Nicolas Badgioni en direct de Beyrouth.